Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, le coronavirus, toujours lui, toujours à la une de cette actualité algérienne avec 14 000 patients qui sont actuellement hospitalisés à travers le pays, ce qui, lorsqu'on additionne le nombre de litres d'oxygène consommés par jour, on arrive à une consommation quotidienne de 400 000 litres d'oxygène par jour, ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui une véritable tension sur les stocks d'oxygène en Algérie. Les grands hôpitaux de la capitale Alger affichent quasiment complet. Beaucoup sont obligés d'évacuer des malades vers d'autres centres hospitaliers faute de place sur Alger et sa grande périphérie face à cette tension qu'il y a aujourd'hui quant aux moyens dont on dispose en Algérie pour soigner les gens qui sont frappés par le coronavirus, qui ont besoin dans le cadre d'une détresse respiratoire d'oxygène. Et bien plusieurs médecins, également des éléments paramédicaux, ont décidé de manifester hier, fatigués, épuisés par les incertitudes qui demeurent sur le stock d'oxygène dans le pays. Ils ont défilé en scandant d'une seule voix, ramenez-nous de l'oxygène. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays fait face à une véritable poussée de la contamination. Le gouvernement fait des efforts. Il a annoncé dans le courant de la semaine la construction à Oran d'un complexe de production d'oxygène. Mais est-ce que cela va suffire pour faire face à la pandémie de Covid? Pour l'heure, dans 37 wilayas, les mesures de couvre-feu ont été rétablies à hauteur de 20 heures chaque jour. Couvre-feu de telle façon à ce que la population se déplace moins, de telle façon à limiter la propagation du virus de la Covid-19. En Tunisie, c'était une réunion pour faire le point sur le climat politique dans le pays. La Choura, le conseil de Ennahda, se réunissait. Eh bien, l'atmosphère a été absolument électrique. D'aucuns réclamant que Ranouchi, qui dirige ce parti depuis plus de 40 ans, eh bien, qu'il quitte ses fonctions. Également demande la démission du président du conseil, Abdelkarim Harouni. Il y a deux députées femmes qui ont quitté la salle. Alors, elles n'ont pas quitté le mouvement Ennahda, mais on dit que dans des conditions pareilles de contestation à la fois de qui est qui et qui fait quoi et où va le mouvement et quelle réaction, quelle attitude à avoir dans le contexte politique actuel, eh bien ces deux femmes députées, elles ont décidé de partir et de revenir à un autre moment lorsque le climat se sera quelque peu apaisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes sur Ennahda, sa capacité à réagir face à la nouvelle donne politique qui a été initiée par le président tunisien, et sinon le porte-parole de l'UGTT, le tout-puissant syndicat tunisien, eh bien, il estime nécessaire de dire que, selon lui, selon l'UGTT, Ennahda appelle aujourd'hui des pays étrangers à imposer des sanctions économiques contre la Tunisie, qui est incarnée par le président Kais Saied. Alors, est-ce que cette information est valide ou pas? Est-ce qu'elle est sérieuse? L'UGTT n'apporte pas de preuves, mais il n'en reste pas moins qu'il annonce que, selon lui, il y aurait un travail de sabotage, entre guillemets, de Ennahda envers les institutions présidentielles actuelles en Tunisie. Les chiffres de l'immigration clandestine au large des côtes libyennes, 1100 migrants illégaux ont pu être secourus au large de ces côtes alors qu'ils tentaient la traversée de tous les dangers pour rejoindre l'espace Schengen. Nous sommes en période d'été, c'est une période cycliquement qui est dévolue par les passeurs pour envoyer les migrants au large et tenter de rejoindre les côtes européennes. En Libye, il y a des efforts qui sont faits d'un point de vue politique sur le théâtre économique avec des procédures qui engagent la façon dont les marchés publics sont lancés, qui ont souvent été suspectés de corruption. Eh bien, le ministère de l'économie vient de lancer une série de nouvelles procédures de telle façon à clarifier ces marchés publics, de telle façon aussi à ce que soit fait la preuve par A plus B que ceci se déroule en parfaite transparence et qu'il n'y a pas d'activités illicites qui sont réalisées à l'occasion de ces lancements de marchés publics. Et il est intéressant de noter que les Mauritaniens également sont dans une logique similaire, en tout cas va-t-on dire, de clarification de l'administration. Le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation vient d'annoncer ce projet pour créer un nouveau système d'intégration, de gestion des populations pour que les papiers de la vie de tous les jours des citoyens, les pièces d'identité, les pièces administratives qui sont échangées dans la vie quotidienne, eh bien que ceci réponde à un schéma tout à fait clair, informatisé, qui soit parfaitement transparent pour tout le monde. Ceci concourra au bien-être des citoyens et puis aussi à la facilité de travail des agents administratifs qui sont en charge de ce dossier au sein de l'État mauritanien. Sur le front terroriste au Tchad, ce sont 24 militaires qui ont été tués dans une attaque attribuée à Boko Haram, le groupe Boko Haram que l'on a dit ces derniers temps quelque peu dépassé par le groupe État islamique qui monte en puissance dans la région. Et bien celui-ci, à travers cette attaque terriblement meurtrière pour l'armée tchadienne, toujours très engagée sur le terrain de la lutte tant antiterroriste, et bien 24 des siens ont été tués par un groupe Boko Haram, certainement signifiant ainsi sa volonté de rester leader sur le marché de la violence et du sacré dans la région. L'aviation israélienne a fait décoller des avions pour frapper des positions au sud du Liban, puisqu'il y a eu hier dans l'après-midi 3 tirs de roquettes qui visaient les frontières israéliennes. Une roquette a été tirée, mais la cible manquée, elle a atterri au Liban. Une autre a été détruite par le système antimissile israélien Iron Dome. Et une troisième a atterri à proximité d'une petite localité. Il y a eu un départ d'incendie, mais celui-ci a été vite maîtrisé. Aucune victime n'est à déplorer. Le Liban, où il y a eu quelques échauffourées hier à l'occasion du premier anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, beaucoup de promesses de dons étaient faites. 100 millions de dollars pour les Américains, 100 millions d'euros pour la France, pour aider les Libanais à faire face à la crise économique actuelle. Mais il faut se souvenir de cette journée comme ayant été un lieu où tout le monde a demandé à ce que la lumière soit faite sur cette terrible explosion qui a causé la vie de plus de 200 Libanais et blessé plus de 6500 autres avec tous ces dégâts matériels. Aujourd'hui, le Liban porte toujours cette date du 4 août 2020 et donc 2021 hier comme étant une blessure dans son inconscient collectif puisque signifiant, de par le sang des siens qui ont été versés, l'incapacité de l'État à faire la lumière sur un événement national absolument dramatique.
Attaque, combat, guerre.
Notre escale du jour, c'est la zone Syrie-Irak avec ce rapport américain sur la situation de Daesh quelques 2 années après l'effondrement de son pseudo-califat autoproclamé qui n'avait aucune valeur juridique et qui a été le théâtre des atrocités que l'on sait. L'inspecteur général du département américain de la Défense a rendu public un rapport qui fait froid dans le dos puisque, mais ça nous en parlons souvent, le groupe État islamique est toujours opérant sur l'axe syro-irakien, même s'il est beaucoup moins efficient, même si la territorialisation telle qu'elle a pu exister dans le passé s'est bien terminée, mais le groupe État islamique est toujours en capacité de recruter des jeunes hommes, des adolescents, ce sont là des cibles privilégiées pour les terroristes et convaincre des jeunes désœuvrés, des jeunes en manque de repères de rejoindre le groupe qui vont ensuite s'entraîner dans cette immense zone désertique entre la Syrie et entre l'Irak. C'est là où ils apprennent les armes, c'est là où ils apprennent les explosifs et ensuite ils seront projetés sur divers fronts. Alors les fronts, ils sont à la fois sur Deir ez-Zor, en zone syrienne, également province de Al-Anbar, pour ce qui est de l'Irak, avec de temps à autre des incursions sur les grandes villes, Bagdad en particulier. Il y a toujours une menace des hommes du groupe État islamique, même si les forces irakiennes mène un combat quasi quotidien. Il y a des arrestations quasiment toutes les semaines et souvent ce sont des responsables, des commandants qui sont arrêtés. Du côté syrien, il y a moins d'arrestations, mais il y a des opérations militaires significatives qui sont à la fois menées par les FDS, les Kurdes, mais aussi les forces qui sont restées loyales à Bachar el-Assad. Donc la lutte se poursuit, mais le groupe État islamique a une capacité de résilience, notamment je parlais de Deir ez-Zor, mais c'est vrai que sur toute cette vallée de l'Euphrate, on se rend compte qu'il arrive arrive encore à maintenir des cellules et malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les douleurs, malgré le sang qui a coulé, l'œil a encore des capacités de recrutement qui sont tout à fait inquiétantes. On peut signaler sur cette actualité terrorisme, et là le rapport américain n'en parle pas, qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement, mais attendons d'en avoir les confirmations qu'il y aurait des départs de candidats aux groupes terroristes qui se dirigeraient vers l'Afghanistan pour rejoindre les vallées afghanes qui sont tenues par les talibans, soit pour aller du côté de Al-Qaïda qui a une présence historique en Afghanistan, soit pour rejoindre le groupe État islamique qui a déployé une branche locale, une branche régionale également qui mène le combat, qui a besoin d'hommes puisque les pertes au front sont absolument colossales. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui le monde qui observe le terrorisme se demande si une victoire des talibans Liban à Kaboul en Afghanistan, est-ce que cela pourrait créer un appel d'air de combattants terroristes qui chercheraient et qui trouveraient là un nouveau front? C'est une question que l'on se pose aujourd'hui. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.